Frères et sœurs bien-aimés, pour méditer et approfondir l'évangile que nous venons d'entendre, dont les questions sont si essentielles à notre vie chrétienne, il faut tout d'abord expliquer. Le gouverneur Ponce Pilate a vu arriver un groupe de Galiléens, suspectant, à tort ou à raison, suspectant qu'il s'agissait de terroristes qui allaient donc venir contester l'autorité romaine, puisque nous savons que l'Empire romain avait pris pour occupation la Terre Sainte, Israël. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ces hommes, ils vont au temple de Jérusalem offrir un sacrifice à Dieu, et au moment où ils sacrifient les animaux qu'ils offrent, eh bien voilà qu'il les fait massacrer. Non seulement Pilate opère ce massacre, mais en plus, dans le temple de Jérusalem, mêlant le sang de ces hommes à celui du sacrifice des animaux. Nous ne comprenons peut-être pas, mais pour le peuple juif, c'est une double offense. Non seulement il ne faut pas tuer, dit le Seigneur, mais encore moins dans le temple, le lieu où se trouve la sainteté de Dieu et où on offre, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, on offre en sacrifice ces animaux avant que le Christ vienne lui-même offrir son propre sang. Voilà donc déjà le premier fait divers, pourrions-nous dire, que nous rapporte saint Luc et dont parle le Seigneur. Le second est celui de ces gens, ça avait fortement marqué les habitants de Jérusalem, qui, passant auprès de la tour de Siloé, ceux-là sont reçus lorsque celle-ci s'est effondrée. Ces deux faits sont accompagnés d'une question que nous pourrions peut-être transposer avec nos expressions à nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour mériter d'être massacrés dans le temple de Jérusalem? Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour être massacrés par la tour de Siloé? Toute l'histoire humaine est accompagnée d'un certain nombre de drames. Nous pensons au XVIIIe siècle, la littérature abonde à ce sujet, sur ce terrible séisme qui mit à mal Lisbonne. Capitale catholique avec tant de monastères, même des gens étaient en train de célébrer la messe à l'église quand le séisme a fait que tout s'est effondré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour mériter un tel sort? Ce pourrait être aussi des questions que nous nous posons lors de la crue de 2013 ou même demain, lorsque nous accompagnerons en cette église Simon que l'avalanche a emporté. Voilà la problématique. Les questions que l'on pose au Seigneur, que l'on peut poser en ces termes, quel est donc le lien entre le péché et les pécheurs et le jugement de Dieu dans ces catastrophes? Eh bien, le Seigneur précise qu'il n'y en a pas. Le Seigneur précise que ceux qui ont été massacrés au temple de Jérusalem, comme ceux qui se trouvaient au mauvais moment, à la mauvaise heure, lorsque la tour s'est effondrée, ne sont pas plus pécheurs que les autres. Et le Seigneur d'interroger ce qui se trouve derrière comme conception de Dieu. C'est là où veut en venir le Seigneur. Si le bon Dieu prenait plaisir à manifester ainsi sa justice de façon imminente, il a péché, paf, avalanche. Il a péché, paf, la tour lui tombe dessus. Ben, on ne comprendrait pas pourquoi. Le bon Dieu n'a pas mis un terme, aussitôt après le péché d'Adam et Ève, au genre humain. C'est fortement méconnaître le bon Dieu tel qu'il se révèle dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour avoir des idées pareilles. Le Seigneur Jésus, dans la prière du Notre Père, ouvre la première des sept demandes qui constituent cette prière par ces mots « Notre Père, que votre nom soit sanctifié. » Alors le nom de Dieu signifie dans les Saintes Écritures l'ensemble de l'être de la personne, comme sa vocation même. Nous demandons donc à Dieu que son nom en nous soit sanctifié, en nous, même dans nos têtes et nos raisonnements. Nous voudrions trop facilement que le bon Dieu pense comme nous et que du coup nos interprétations seraient donc la vérité vraie du bon Dieu. Il n'en est pas ainsi. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur met en garde, attention, mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Nous avons, à découvrir peu à peu dans notre vie spirituelle, à l'école des Saintes Écritures, en fréquentant le Seigneur dans la prière, dans la réception respectueuse des sacrements, nous avons à découvrir Dieu tel qu'il se révèle. Il se révèle, nous l'avons chanté dans le psaume, comme un Dieu tendre, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, de telle sorte que le raisonnement auquel le Seigneur fait face, est caduque. Dieu ne prend aucun plaisir à la mort du pécheur. Si nous pensons cela, nous pensons que Dieu est profondément sadique. Il nous aurait mis sur la terre pour nous faire souffrir, parce que ça lui procurerait une quelconque gloire, un quelconque plaisir. Nous comprenons combien cela est étranger au Dieu très saint d'Israël, à notre Dieu. Au contraire, aussitôt qu'il y a le péché d'Adam et Ève, voilà qu'il manifeste dès le livre de la Genèse qu'il va venir à notre rencontre pour nous sauver. Tout l'Ancien Testament est l'œuvre de pédagogie divine où Dieu peu à peu se dévoile. Nous avons entendu dans la première épître Moïse et l'épisode du buisson ardent. Nous sommes à un moment charnière de la vie de Moïse. Celui-ci vient d'opérer une course folle dans la ville, course de chars avec les princes d'Égypte auprès de qui il a été élevé, et s'est trouvé nez à nez confronté à un Égyptien, un contremaître qui fouette un certain nombre d'Israélites. Et Moïse de réaliser qu'il ressemble à ces gens-là, qu'il s'agit de son peuple. Bien voilà que pris d'effroi, d'injustice, voilà que Moïse tue le contremaître et réalisant après, se met à le cacher. Il fuit à Madiane, non seulement parce qu'il craint le jugement de Pharaon, mais aussi parce que le peuple d'Israël a bien manifesté à Moïse, « Mais qui es-tu donc ?» pour te prendre pour l'un des nôtres. Alors Moïse ne sait plus à qui il appartient. Il n'appartient pas vraiment à la famille égyptienne, il n'appartient pas apparemment à ce peuple d'Israël. Il fuit. Et c'est là, errant, dans cette province de Madian, que Dieu va venir se manifester à lui. Moïse voit un buisson qui brûle dans le désert, sans se consumer. Et voilà que Moïse s'approche de ce grand mystère. Et la voix de Dieu dans le buisson lui dit « Déchausse-toi, ce lieu est une terre sainte. » Parenthèse, Bernadette entrera pieds nus dans la grotte de Lourdes. Elle fera cesser les chants et les danses de ses sœurs le 11 février parce que cette terre est devenue pour elle une terre sainte depuis que le buisson lumineux a fait place au beau sourire de la dame. Revenons à Moïse et à ses moutons, il est berger en ce temps-là. Moïse entend sa vocation de la bouche même de Dieu. Il est l'heure de libérer mon peuple. Si Dieu n'avait que faire de nous, de notre sort et même de nos péchés, croyez-vous qu'il aurait envoyé Moïse pour aller alors délivrer de l'esclavage ce peuple d'Israël ? Qui nous figure chacun, peuple de Dieu, qui marchons dans les ténèbres de cette vie, mais qui resplendissons intérieurement par la lumière du Seigneur. Dieu alors donne son nom. Tout d'abord, il précise « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». Et Dieu révèle alors son nom, je suis qui je suis. Je suis qui je suis, notre conjugaison française, si subtile en sa concordance des temps, ne possède pas un temps grammatical qui permet de dire en même temps le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire un temps de conjugaison pour l'éternité, ou plutôt, parce qu'il a toujours Dieu pour sujet, l'éternel. Eh bien, Dieu dit en même temps « Je suis qui j'étais ». Pour me connaître, il faut regarder la révélation que j'ai accordée à Abraham, à Isaac, et maintenant tel que je vais me révéler être auprès de vous, Moïse. Dieu manifeste en son mystère qu'il est présent. Il est présent à nos côtés. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur, à l'unisson de ce nom de Dieu, ne cessera de le reprendre. « Je suis, » dit Dieu à Moïse. « Je suis le bon berger, » dit le Seigneur. « Je suis la porte de la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, » dit le Seigneur. Il revendique ce nom de Dieu. Parce que non seulement Dieu s'est manifesté comme un Dieu patient, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, parce qu'il invite à l'amour du prochain, mais aussi parce que le bon Dieu va même décider de venir à notre rencontre dans le mystère de son incarnation. Alors si Dieu prenait plaisir à la mort du pécheur, pourquoi donc venir ici-bas? C'est bien que Dieu, eh bien, veut que le pécheur s'amende et soit sauvé. Nous avons même entendu dans le psaume du roi David, « Il réclame ta vie à la tombe. » C'est bien que Dieu, c'est bien que la mort est la conséquence du péché, mais qu'il vient ouvrir dans ce péché un chemin de rédemption. Il l'ouvre par les patriarches, par les prophètes de l'ancienne alliance, mais surtout, tout cela cumule lorsque le bon Dieu lui-même se fait homme pour que nous, les hommes, puissions eh bien, prétendre à la vie éternelle. La souffrance, le mal, les épreuves existent. Le Seigneur en a bien conscience. Derrière cette question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une telle épreuve, une telle tuile, un tel sort? Il y a quand même un élément de vérité. Dieu est tout de même le Dieu créateur. Au commencement, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il y avait des dons, je ne développerai pas tout cela maintenant, il y avait des dons qu'on appelle préternaturels que le péché vient faire perdre. Il y avait notamment une providence spéciale pour éviter tout cela, pour éviter les accidents, pour éviter les infortunes. Mais voilà que, avec le péché, nous sommes laissés à notre libre arbitre. Nous engageons notre vie, et pas seulement individuellement, mais aussi les uns avec les autres. Parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a l'épreuve, et même celle de la mort, Dieu a pris au sérieux notre condition humaine en se faisant homme. Il nous ressemble en toutes choses, à l'exception du péché. Il se saisit de la croix. Il offre sa vie en sacrifice sur le bois de la croix. S'il vient opérer cette rédemption, s'il est l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde, c'est bien parce qu'il ne se réjouit pas de la mort du pécheur, mais qu'au contraire, en offrant sa vie sur le bois de la croix, il nous dit « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Vraiment, frères et sœurs, Dieu ne pense pas avec nos manières. Dieu est amour, et cet amour va même jusqu'à la miséricorde. Cet amour de Dieu qui nous saisit, qui nous habite par la foi, par l'espérance et par la charité, doit être manifesté à l'endroit de l'amour du prochain. Enfin, je terminerai par la première réalisation du bon Dieu. Au commencement, lorsque le bon Dieu créa le ciel et la terre, il créa quelque chose qui lui est profondément étranger, puisqu'il est l'éternel, je suis. Il crée le mystère du temps. Alors on sait bien que nous, des fois, le temps, on est heureux quand on a 20 ans dans l'insouciance, et puis plus les années arrivent, plus les années passent, et plus le temps se resserre. Et plus le temps aussi manifeste à notre corps sa faiblesse, ses souffrances. Mais le mystère du temps, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et là, pour manifester la patience de Dieu à notre endroit. Lorsqu'il a créé les anges, en un instant, ont eu un choix à opérer décisif pour l'éternité. Serviam, non serviam. Les bons anges disent « Je servirai Dieu pour l'éternité ». Et ceux qui deviennent démons, non serviam, moi, je ne servirai pas parce que par orgueil, je n'ai pas besoin de Dieu. Cela est une fois pour toutes, en un seul acte, en un fragment de seconde. En revanche, nous, nous bénéficions du mystère du temps. Le bon Dieu nous donne du temps pour que nous puissions petit à petit nous convertir. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre dans la parabole, celle du figuier. Même un figuier qui ne porte pas du fruit, qui épuise donc le sol par ses racines, eh bien même ce figuier qui nous figure chacun, il faut lui laisser du temps, apporter le fumier nécessaire pour que peut-être il puisse porter du fruit. Voyez à quel point notre vie, même éloignée de Dieu, a du prix pour le Seigneur. À quel point il a le désir de nous relever comme il a relevé Marie-Madeleine. Et en ce temps du carême, alors que nous expérimentons nos faiblesses, nos péchés, que nous préparons cette confession pour célébrer les fêtes de Pâques, nous rendons grâce pour cet amour du Seigneur. Un amour lent à la colère, un amour qui va même jusqu'à la miséricorde. Ainsi soit-il.